Simplement quelques mots au départ par rapport à cette matinée. Je voulais d'abord m'excuser du fait de venir simplement sur une journée. Au départ, j'avais refusé cette belle invitation de la part de M. Bois et de Frédéric Soja pour un double agenda qui était difficile à compresser. Et j'ai quand même tenu en fait à venir une journée, mais ce qui explique mon passage un peu impoli, un peu rapide, alors que je suis tout à fait intéressé par les travaux de mes collègues et j'aurais eu plaisir aussi à travailler, à écouter ce qui s'est fait hier et à voir ce qui va se faire demain. Et puis je trouve que le point de vue de mes camarades est très complémentaire par rapport à un regard sur les élèves, un regard... Et je crois que mon travail, parfois, met trop la focale sur les enseignants débutants, au point de me poser des questions assez existentielles par rapport à ce travail-là. Est-ce que la meilleure façon de travailler avec des enseignants débutants, c'est de s'hyper concentrer sur leur devenir, leur existence et leurs difficultés? Est-ce qu'à un moment donné, une formation ne serait pas beaucoup plus efficace en s'attachant simplement à travailler sur les élèves? Je provoque un peu, je me provoque moi-même et je me fais mal. Mais à un moment donné, une formation initiale qui passerait énormément de temps sur les conduits des élèves, l'activité des élèves, et qui mettrait complètement de côté ce que je vais vous présenter, je ne devrais pas me faire mal comme ça, ça aura peut-être des effets sur le développement professionnel des enseignants. Alors que le travail que je vais donc vous présenter est un travail assez solipsistique, où on va être dans leur monde, dans leurs difficultés, dans leurs préoccupations. Bien entendu, ce n'est pas détaché des élèves, jamais détaché des élèves. Mais mes travaux, quand même, s'attachent plus à cette entrée dans le métier et à l'expérience humaine, à ces jeunes enseignants en situation professionnelle. Bon, première parenthèse. Deuxième point, on m'a signalé quand même des difficultés à tenir ce groupe. J'ai compris qu'il y avait eu quand même des controverses professionnelles, et les mots sont faibles, d'après mes rapporteurs, qu'il y a des personnes à tenir. Et n'étant pas arrivé encore à Noël, puisque ma maxime, c'est quand même pas un sourire avant Noël, je vais être assez ferme avec vous. Et on m'a déjà plus ou moins dit quelles personnes pouvaient éventuellement intervenir de façon véhémente, conflictuelle, etc. Donc j'ai des noms, mais par contre j'ai une feuille de route et je vais m'y tenir.
Ça dépend si tu as du flanc ou non. Si
ah, du flanc, je veux pas d'intervention. Alors, rapidement, Luc Ria, enseignant-chercheur, maître de conférence HDR sur l'UFM d'Auvergne, ancien prof d'éducation physique, ayant fait le parcours. Donc là, il y a une sorte de concentration qui peut poser problème. J'ai donc fait ma thèse sur les enseignants débutants en éducation physique dans un premier temps. J'ai travaillé beaucoup sur les émotions au travail. Les émotions au travail, les dilemmes professionnels, les préoccupations, en faisant un travail avec Marc Durand et en m'inspirant des travaux de Jacques Thoreau en ergonomie cognitive. Alors ce matin, je vais être très très léger sur la partie théorique pour être dans les données, dans des résultats et pour vous montrer des différentes pistes dans les travaux que je mène actuellement. Ensuite, en arrivant à l'UFM d'Auvergne, dans le laboratoire de Roland Guagou, qui travaille, on est assez proches et on a pas mal de convergences dans la façon de travailler sur à la fois des enjeux disciplinaires pour lui en français, pour moi peut-être au départ par rapport à l'EPS, mais aussi par rapport à une perspective ergonomique au sens large, pour comprendre l'activité des enseignants, pas indépendamment, mais en essayant de s'attacher à comprendre à la fois les enjeux disciplinaires, mais aussi des enjeux ergonomiques, d'ergonomie cognitive, d'expérience professionnelle au travail. Et assez rapidement, donc avec des contrats de recherche, j'ai développé des études dans le second degré, alors que de façon assez spectaculaire sur l'UFM d'Auvergne, tous les travaux se développaient dans le premier degré, avec une sorte d'impossibilité de par la fermeture, la compartimentation des départements à travailler sur du second degré. Nous avons eu un programme de recherche, une ACI, qui est une action concertée incitative, avec donc un programme assez lourd pour mieux comprendre le rôle des différentes formations, la fonction des différentes formations, les effets de ces différentes formations sur les professeurs stagiaires du second degré, toute matière. Donc on a travaillé, on a enquêté, on a travaillé avec des enseignants, donc des professeurs stagiaires à l'UFM, donc des PLC2, alors je crois que certains vous disent des fois des PCL2, pour comprendre leur trajectoire, leur parcours, leurs difficultés, en utilisant des moyens ethnographiques, en enregistrant en classe, en enregistrant leur activité en formation, pour essayer de comprendre les dispositifs qui les bougent, ceux qui posent problème, et pour comprendre comme ça sur une année leur trajectoire. Et vous allez voir que le travail que j'ai présenté aujourd'hui s'inspire beaucoup de ces méthodes-là, mais sur le second degré, sur l'entrée dans le métier, dans les milieux difficiles. Alors assez rapidement, j'ai quitté, et ce n'est pas du tout une trahison par rapport à mon champ disciplinaire, mais j'ai quitté l'éducation physique puisque les enjeux même de mes travaux dépassaient largement le cadre de l'éducation physique. Et j'avais la possibilité de repérer des trajectoires, des similarités, des régularités chez des professeurs stagiaires en maths, en histoire géo, en français, en documentaliste. On a travaillé avec pas mal de matières qui acceptaient avec grand plaisir d'avoir des chercheurs dans leur département. On a eu des temps assez forts avec les formateurs qui ont ouvert leur département et qui ont accepté de regarder les effets éventuellement de leurs actions sur les stagiaires et de voir comment nous, en tant que chercheurs, on pouvait les interpréter. Et progressivement, donc, on a construit un peu une culture transdisciplinaire, sans forcément s'affranchir des didactiques, mais en essayant de trouver une articulation entre l'activité qui se déploie au jour le jour, avec des éléments didactiques, mais pas seulement. Voilà un peu le parcours. Et actuellement, donc, je travaille beaucoup, notamment avec Marie-Estelle Rouve, hein, qui est présente ici en tant que stagiaire, mais qui est sur une thèse en milieu difficile, sur ses trajectoires d'enseignants débutants dans la région parisienne. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Ce que je vous propose pour ce matin, c'est, non pas par rapport à ce qui s'est fait hier, hein, je fais abstraction de ça, tout à l'heure c'était simplement pour lancer un brin d'humour, mais je vais essayer quand même de vous présenter globalement quelques éléments de mon projet de recherche, sur quoi je travaille, programme de recherche, avec un certain nombre de résultats, avec un certain nombre de vidéos. Je vais prendre le temps de poser les choses pour éviter qu'il y ait trop de questions dans un premier temps de débat, non pas non fondés, mais sur des éléments qui pourraient être des éléments de malentendus par rapport à une exposition non exhaustive de mon travail. Donc je vais dire les choses, prendre un peu le temps, si vous permettez. J'accepte bien sûr des questions de compréhension par rapport à la façon dont je travaille, mais je vais développer un peu et je voudrais qu'il y ait vraiment un temps d'échange sur les questions fortes, sur les problématiques qui apparaissent plutôt en fin de matinée, si vous l'acceptez. Alors une pause également, j'imagine, au milieu, je ne sais pas, hein, vous... Moi, j'ai pas l'habitude de faire des pauses, mais s'il faut en faire une, pas de problème. À vous de voir. Alors, l'état des lieux. Je vais le faire de façon non scientifique. Hein. Je vais rassembler un certain nombre d'éléments sur cette entrée dans le métier du second degré. Quelques précautions, quand même. Je pourrais tomber dans un excès de misérabilisme par rapport à cette entrée dans le métier, faire fuir des amphis complets par rapport à la formation des enseignants débutants. Et pourtant, lorsque nous faisons des conférences et des interventions auprès des PLC2, toute matière, alors c'est pas de la formation en général, c'est une formation un peu entre disciplinaire et générale, on nous demande d'être quand même sans concession, de dire les choses, évidemment avec une tonalité positive, constructive, en essayant de repérer des solutions pour faire ce métier avec efficacité, mais on pourrait être assez négatif, et je suis très prudent dans la façon d'intervenir en général. Alors, l'état des lieux, et en tout cas, je vais pouvoir vous montrer des images, et puis on va pouvoir comprendre un peu, percevoir un peu comment vivent ces jeunes enseignants. On retrouve le choc de la réalité professionnelle de Vindman, hein, qui a été quand même décrit depuis des années dans la littérature, c'est un grand classique. Mais ce choc, c'est pas un choc frontal d'une journée, mais c'est une période souvent longue. C'est pas simplement le passage d'une eau chaude à une eau froide, mais c'est un travail long, identitaire, progressif, qui demande du temps et dont les enseignants débutants estiment ne pas s'en sortir dès les premiers mois. Une jeune enseignante, je vais prendre souvent quand même des propos de leur part, dit c'est quand même un TGV dans la gueule et notre formation initiale nous a pas préparé à ça. Alors on pourrait revenir sur ces questions-là, je vais pas trop les développer, mais je suis assez intéressé de voir comment, après avoir suivi une jeune agrégée de mathématiques sur toute une année sur la formation clermontoise, quand on poursuit le travail avec elle sur Sevran-Livry, lycée professionnel difficile, avec une sorte de double grille, avec des chiens loups, avec un système électrique de clôture des salles, enfin bon, elle a complètement changé d'univers, elle a l'impression d'être démunie pour intervenir dans les premiers temps. Et lorsque j'ai fait avec elle des entretiens, des autoconfrontations, elle a pris conscience, et là il y a eu un effet de la recherche sur sa propre formation, que tout ce qu'elle avait mis en place l'année précédente, ben finalement, ça pourrait peut-être lui servir. Et que ce changement de contexte a favorisé une sorte de rupture symbolique mais réelle dans son monde de signification par rapport à ce qui a été vécu au départ. Et là, je crois qu'il y a, vraiment à retravailler ça, cette entrée et ces phases de transition. Alors évidemment, le cahier des charges des IUFM nous incite, puisqu'il veut protéger les enseignants débutants et créer ce continuum PLC2, T1, T2. Je parle français pour tout le monde, il n'y a pas de titulaire première et deuxième année, PLC2, pour que les PLC2 fassent cette année de stage dans le lieu professionnel dans lequel ils vont être affectés, pour les protéger. Je crois que ça serait là-dessus. Bon, après, il y a énormément de problèmes par rapport aux mutations, par rapport à cette régionalisation des concours. Mais l'idée était bonne quand même pour pouvoir les protéger. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce passage de Clermont, de la ruralité, entre guillemets, du choc de la ruralité au choc de la cité, lui fait perdre tout moyen et tout repère par rapport à ce qu'était sa formation, en disant « ben non, ça ne me sert à rien ». Et finalement, en y réfléchissant ensemble, en retravaillant sur des autoconfrontations avec elle, elle s'est aperçue qu'elle avait quand même conçu plein de choses les années précédentes dans un établissement qui n'était pas si facile que ça. Et qu'en fait, elle avait un peu estompé cet horizon, en tout cas ce répertoire de possibles, du fait de cette nouvelle vie, de ces nouveaux élèves. Précarité psychologique, économique, je ne vais pas rentrer dans le détail. Malheureusement, quand on est dans la région parisienne avec non plus deux fois le SMIC, mais 1,3 fois le SMIC, c'est carrément difficile à vivre, avec beaucoup de colocations. On est au bord de la précarité pour ces jeunes enseignants dans la région parisienne. Des problèmes de réinstallation permanente de la forme scolaire, je vais m'étendre sur ce point-là, mais on voit cette différence par rapport à ces élèves qui ne sont plus des élèves forcément pré-enclins à devenir des élèves, des enfants qui ne viennent pas forcément des élèves, et qui, avec cette négociation permanente par rapport aux règles, et je pense que vous avez déjà été largement sur ce type de sujet hier, un turnover, donc un mouvement très important au niveau des enseignants. J'imagine que je ne vous apprends pas grand-chose non plus sur ces grandes banalités. Je pense quand même qu'il faut replacer un peu le contexte général. Dans beaucoup d'établissements, le turnover va de 30 à 50%, avec une sensation très désagréable pour ces jeunes enseignants, c'est de voir des enseignants plus chevronnés quitter le navire avant même d'avoir eu les conseils qu'ils auraient pu espérer. Alors, un sentiment, de se faire bizuter à leur tour. Et quand je travaille dans ces établissements-là, je vous montrerai lesquels, je me fais pas agresser, mais parfois un peu quand même, un peu chahuté par les générations de personnes ayant quelques années en plus, en disant « oui, vous vous intéressez aux jeunes, mais vous vous intéressez pas à nous ». Bon, déjà, il y a un peu identitairement un problème ici. Alors, régulièrement, maintenant, on est beaucoup plus adroit par rapport à ça, qu'on est prêt à écouter toute conversation et pas simplement se focaliser sur les débutants. Mais on sent quand même très rapidement une sorte de césure et de rupture générationnelle. Et ça, c'est un vrai problème. On sait que dans les années qui vont venir, il y a un renouvellement fort quand même de la professionnalité de ces enseignants qui vont partir à la retraite. Et on voit une sorte de rupture, il y a un manque de tuilage évident dans ces établissements-là. Alors ça, on pourrait rentrer dans les détails, je ne vais pas le faire tout de suite. Mais il y a des pistes assez intéressantes pour comprendre comment les jeunes se regroupent pour former presque des groupuscules un peu autonomes, à la marge. Et puis ces enseignants qui sont plus chevronnés, qui ne participent pas toujours, malheureusement, à cette formation sur place des enseignants débutants. Bon, je pose des choses comme ça, on pourra ensuite réfléchir à ces problèmes-là ensuite. Donc faible tuilage entre les générations d'enseignants. Je viens ici sur un constat qui est le constat d'un principal qui a une trentaine d'années d'expérience de milieu difficile sur Seine-Saint-Denis. On est à Bondy, dans un établissement qui s'appelle le collège Jean Zé. Une secpa de 120-130 élèves, des résultats au brevet des collèges les plus faibles de Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus faible de l'Académie de Créteil, qui est l'académie la plus faible de France. Donc on n'est pas très loin quand même d'un établissement en grande difficulté, avec 50% de turnover et des élèves quand même très durs. J'ai pu en tout cas l'observer quand même quotidiennement. Pour lui, il y a une sorte de métamorphose. Et là, ça m'intéresse et ça m'interroge en tant que chercheur. Une difficile métamorphose. Ces termes sont les suivants. En septembre, c'est souvent la déroute. Il parle des enseignants débutants qui débutent dans l'établissement. En novembre, la désespérance. Donc actuellement, on est sur la désespérance. Puis en janvier, par miracle, une forme de métamorphose. Pour plus de la moitié, une forme de résignation pour une petite minorité. Quelque chose se passe ou ne se passe pas. Quand je relis ces traces, ces verbatims, et que j'ai des spécialistes, des observatoires sur Créteil, ils me disent, mais ça c'est exact, c'est vraiment très très juste ce que dit ce principal. On retrouve bien cette métamorphose, cette mue, cette transformation. Alors, moi je ne peux pas me satisfaire de ça. Est-ce qu'on peut laisser les cohortes d'enseignants faire leurs premiers pas et se métamorphoser? Qu'est-ce que c'est qu'une métamorphose quand on est enseignant débutant? Qu'est-ce qui va bouger? À quel niveau se situent ces transformations? Quels sont les espaces qui favorisent ces transformations identitaires, professionnelles, ces règles du métier, éventuellement? Là, je crois qu'il y a une vraie question de recherche qui me semble être une question de recherche dont la légitimité est complètement en face par rapport à la survie de ces jeunes enseignants. Le recteur de l'Académie de Créteil, qui était M. Saint-Giron, enfin ex-recteur de Créteil, disait 4 mois dans ces établissements, 4 mois dans l'Académie, c'est 10 années de formation ailleurs. Et l'Académie de Créteil forme pour la France, enfin pas que Créteil, je pourrais aussi là-dessus être assez prudent, Versailles, Amiens, Rouen, Lille, etc. Mais il y a quand même 4000 enseignants débutants du second degré dans l'Académie de Créteil chaque année. Donc vraiment une concentration de jeunes enseignants. Alors mes recherches par rapport à cet enseignement en milieu difficile, je vais en décrire 3 très rapidement. Je vais vous présenter un tout petit bout de cadre théorique qui va durer 15 secondes. Et puis après, je vais vous mettre dans les données, dans l'activité professionnelle réelle. La première recherche correspond au suivi annuel de néo-titulaires de plusieurs disciplines d'enseignement du... Ça va, c'est lisible, là, sans problème. D'enseignement dans un collège labellisé Ambition Réussite. On est donc dans les 249, ça fait partie de la liste des 249 établissements sur le classement que vous connaissez, EP1, EP2, EP3. Et on travaille pour essayer de comprendre cette nouvelle professionnalité. Donc avec Marie-Estelle Rouff sur une thèse. Et son travail, je vais très mal le résumer par rapport, elle le ferait 10 fois mieux que moi, mais j'imagine qu'elle préfère que je le fasse tout de suite. C'est un travail longitudinal pour essayer de modéliser cette entrée dans le métier sur une année. Donc ça peut vous paraître très faible en termes de... On va travailler avec 5 ou 6... On travaille depuis la rentrée avec 5 ou 6 enseignants débutants, néo-titulaires. Alors, c'est des néo-titulaires ou des T2 parce que l'Académie de Créteil a préservé ces T1 pour éviter qu'ils soient dans des établissements réseau Ambition Réussite dès leur premier pas. Donc on travaille avec des T2 pour la plupart qui ont été TZR, pas forcément en place dans l'établissement. On travaille au pied du Stade de France dans le collège Garcia Lorca qui a reçu il y a quelques années, une dizaine d'années, donc une équipe de journalistes d'Arte pour faire un beau documentaire de 3 ou 4 heures sur la loi du collège. On est avec un principal qui est très favorable et qui voit l'intérêt d'avoir des chercheurs dans sa maison et qui nous ouvre toutes les portes et qui est hyper favorable à ses recherches parce qu'il comprend le bénéfice potentiel par rapport à ses jeunes enseignants, bénéfice au quotidien, mais aussi par rapport à des travaux en sciences de l'éducation qu'il apprécie, étant lui-même sur un master, il faut dire les choses. Donc là, des jeunes enseignants, mais aussi des principaux, un principal en l'occurrence, qui fait un travail assez incroyable pour ouvrir et qui favorise la recherche, il faut le souligner. On travaille donc avec et en plus c'est une recherche qui est financée en partie par l'INRP, sur le centre Savary, et on travaille avec ces néo-titulaires qui ont accepté, alors titulaires, néo-titulaires débutants, qui ont accepté donc de faire un journal de bord à l'année, du début à la fin de l'année. On a fait avec eux la pré-rentrée. On a été présenté comme l'équipe de recherche, allant travailler avec eux sur l'année, par mois, tous les mois, étant régulièrement présent dans l'établissement. Alors on se répartit les rôles pour être quand même suffisamment présent dans l'établissement, pour ne pas faire une recherche fantôme ou une recherche à distance. Ils font un journal de bord hebdomadaire pour essayer de consigner les événements saillants en classe et hors classe. On distingue ici l'activité d'enseignement, c'est-à-dire l'activité en présentiel, en face-à-face par rapport à des élèves, mais également la palette de plus en plus multiples, plurielles d'activités, d'enseignement, avec des professionnels associés, avec un certain nombre de collaborateurs dans l'établissement. Et on essaye de comprendre. Alors, journal de bord, il nous explique. Alors, c'est un peu un journal intime avec des traces d'activités qui vont être plus ou moins subjectives, plus ou moins à distance. Donc là-dessus, on les laisse libres de faire leur journal de bord. Et on se sert de ce journal de bord. On ne prend pas à la lettre ce journal de bord, mais on fait ensuite des entretiens de remise en situation à partir des traces d'activités. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir un suivi chaque semaine de l'évolution de ces jeunes enseignants qui vont nous raconter un conflit en classe, qui vont nous raconter une altercation avec un prof, une difficulté à travailler sur les PPE avec telle enseignante. Donc, qui vont raconter leur vie, et parfois ça va presque jusqu'à la vie un peu intime, donc il faudra voir ce qu'on fait de ces données-là, et qui vont pointer sur une échelle de confort-inconfort au travail. J'ai pas mal travaillé sur ces échelles-là quand je faisais ma thèse, donc une échelle toute simple, hein, d'auto-estimation de son confort ou du caractère agréable ou désagréable de la situation vécue, simplement plus 3, moins 3, etc., pour essayer de pointer régulièrement leur plaisir, leur souffrance au travail. Là, je rejoins bien les travaux de Blanchard Laville, hein, 2001, par rapport à ce métier qui ne se fait pas sans émotion, sans souffrance, et un métier quand même fortement émotionnel, contrairement à d'autres métiers, je vais être assez prudent, dans lesquels les professionnels mettent régulièrement à distance leurs émotions pour pouvoir intervenir de façon efficace. On voit quand même une coloration émotionnelle très forte dans ces métiers-là, dans ce métier-là, notamment dans les premiers pas. Donc on va travailler sur ces modélisations, comprendre les événements, les périodes de l'année, les activités, les rencontres qui vont être significatives, marquantes pour ces jeunes enseignants dans leur parcours et dans ces premiers pas. On va essayer également de mesurer un peu, enfin mesurer, le terme est peut-être mal choisi, les différences interindividuelles, de repérer les moments de confort et d'inconfort, de voir les variations d'une semaine à l'autre, et c'est assez étonnant, entre le plus 2, plus 3 en début d'année à la rentrée, alors que ces enseignants, pour certains, disaient avoir pas eu suffisamment de vacances et commençaient juste à récupérer autour du 15 août, en disant « ça y est, là je commence à être bien, ça démarre un peu trop tôt, mais je suis quand même à plus 2, plus 3 parce que là j'ai envie quand même ». Et puis là, on est au mois de novembre et je peux vous assurer qu'on n'est pas du tout à la même hauteur d'échelle. Et il faut aller voir, il faut comprendre, il faut suivre ça de près. Donc, ces entretiens de remise en situation, après, sont accompagnés d'enregistrements d'activités en classe et après d'entretiens d'autoconfrontation. Alors, je fais une différence entre remise en situation et autoconfrontation. Je rentre trop dans le détail. Je regarde, il faut que je commence à me corriger un peu. L'autoconfrontation, c'est donc pour essayer de remémorer, enfin, d'expliciter l'expérience vécue au travail à partir d'un support vidéo, après un petit temps d'apprentissage, avec un chercheur qui n'est pas évaluateur, qui a une démarche empathique pour essayer de comprendre l'être au travail sans jugement a priori de ce que fait l'enseignant. L'entretien de remise en situation, c'est plutôt une sorte de retravail a posteriori sur des traces d'activité qui pourraient être celles du journal de bord, sur lequel le sujet va revenir et pouvoir donner un certain nombre de détails par rapport à l'expérience qui a été vécue. Donc on se sert de ces deux modalités-là pour recueillir des données en classe et hors classe. Bon, vous l'avez compris, j'imagine, on essaye de comprendre ce longitudinal et comprendre ce moment crucial d'entrer dans le métier. Alors cette recherche s'accompagne d'autres recherches en même temps dans le même établissement. Je travaille avec Patrick Rayou. Là, il y a une grande complémentarité entre nos travaux. Moi, je suis plutôt un ergonome où je travaille sur des perspectives d'ergonomie cognitive, donc de l'activité en situation pour comprendre l'émergence de phénomènes en situation professionnelle. Patrick Rayou, sociologue de l'éducation, travaille sur les trajectoires, travaille sur les motifs d'agir, sur les registres d'action et sur des déterminants biographiques selon des échelles temporelles très différentes. Et c'est très intéressant de travailler avec ces deux matériaux-là et ces deux façons d'interroger et d'interpréter les données. On comprend des fois des engagements en classe grâce à ce qui émerge en situation, mais aussi le fondement même de l'activité, les motifs d'agir se comprennent également à partir d'une grille sociologique où on comprend des parcours d'étudiants, des parcours de lycéens, des parcours précédents pour comprendre en partie, sans surdéterminer quand même, l'activité in situ. Alors, la deuxième recherche qui est faite avec Patrick, c'est de s'intéresser aux professeurs référents dans le même établissement. Donc on suit trois professeurs référents à Garcia Lorca, trois autres à Iqbal Massi, à 5 km à peine de cet établissement-là, pour également comprendre l'émission de cette nouvelle fonction, repérer l'activité réelle en sachant qu'il n'y a pratiquement pas d'activité prescrite par rapport à ce nouveau métier, cette nouvelle fonction. On voit leurs difficultés, on voit leurs angoisses, leurs difficultés à cohabiter par rapport à cette fonction qui peut Avant, on parlait de professeur référent, maintenant, on parle plutôt de professeur supplémentaire, une fonction qui est difficile à endosser, avec multiples palettes possibles, et finalement, très peu d'accompagnement des jeunes enseignants. C'est en tout cas une des premières données. Autant ils s'intéressent et travaillent sur les élèves en difficulté, autant sur les professeurs référents, ils ne savent pas bien faire en disant « on ne va pas refaire de l'IUFM », ou dans certains cas, ils reproduisent en table ronde des analyses de pratiques complètement figées qui ressemblent à ce qu'on faisait à l'IUFM. Et les professeurs débutants disent « mais attendez, nous, ça ne nous intéresse pas, parce que l'IUFM, on a fui l'IUFM, et on n'est pas là pour retrouver l'IUFM dans notre établissement ». Donc on essaye de comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est apprécié dans l'accompagnement des professeurs débutants, mais plus largement, quelles sont la palette d'activités pour éventuellement envisager des formations à partir du mois de mars, et notamment Patrick Soja est aussi enrôlé dans ce type de formation, pour comprendre donc cette activité des professeurs référents et éventuellement proposer des formations au niveau national pour finalement définir une norme de ce que pourraient être les professeurs référents. Enfin, là, je ne veux pas être totalitaire en disant ça. Ensuite, régulièrement, et je vous montrerai quelques images après, je travaille sur des nouveaux dispositifs de formation pour voir l'intérêt de formation décalée par rapport à ce qui s'est fait à l'IUFM. Et je vous montrerai quelques images d'une formation d'analyse de pratique, de co-observation entre néo-titulaires dans les établissements. Et là, on découvre un potentiel de formation entre néo qui est assez incroyable. Et quand je présente ça à des conseillers pédagogiques du second degré, ils se disent « mais là, on voit que ça vient du ventre, on voit réellement que l'apprentissage, c'est lié à une survie, et on est sidéré de voir à quel point des néo-ensembles, sans expertise a priori, vont pouvoir trouver des pistes, des nouveaux savoir-faire, vont pouvoir ouvrir leur horizon professionnel, sans avoir forcément un expert chevronné qui va énoncer des règles. » Là aussi, je crois que c'est des pistes très intéressantes, en tout cas pour la formation des conseillers pédagogiques qui apprécient beaucoup. Et à la fin, lorsqu'ils évaluent mon propre dispositif, le meilleur point pour eux, c'est le travail sur les néos. Bon. Alors, 5 minutes, parce que je vois que je m'expose à être complètement à la rue. 5 minutes. Simplement, et je pourrais y revenir, ou en tout cas vous donner des textes si ça vous intéresse, et vous mettre en contact avec mon site à l'IUFM, hein, avec pas mal de textes qui permettent d'approfondir un peu la question. Quelques postulats. Je m'intéresse à l'enseignement, à l'activité humaine, l'activité d'enseignement comme un travail, et on essaye de comprendre du point de vue ce travail, du point de vue des acteurs au travail. Non pas qu'on s'enferme dans leur monde au point d'oublier des réalités concrètes de ce qui existe. On n'est pas dans une partie simplement phénoménale, subjective, oubliant ce qui se joue dans la situation d'un point de vue objectif. Mais malgré tout, il nous semble qu'en permanence, il faut tenir les deux bouts. Décrire les situations, montrer les contraintes, alors les contraintes éventuellement institutionnelles, les prescriptions, mais également comprendre le travail réel à partir des phénomènes vécus par les acteurs au travail. Donc on n'est pas simplement sur les vécus phénoménaux, mais on est sur ces deux éléments, donc des éléments descriptifs de contraintes extrinsèques, mais également des contraintes intrinsèques, qui sont celles que se donnent les acteurs lorsqu'ils agissent en classe, lorsqu'ils prennent en compte tel ou tel élément de la situation. Donc on n'est pas sur la description d'un environnement objectif, mais on est beaucoup plus sur une description des situations professionnelles vécues par ces jeunes enseignants. Vous verrez tout à l'heure qu'un début de cours, de leur point de vue, c'est pas forcément le format académique appris jusque-là en formation initiale. Et qu'il faut peut-être prendre du temps de repérer ce qui est vécu, interprété, construit par les enseignants débutants pour mieux comprendre comment ils organisent leur activité dans ces débuts de cours et comment ces modélisations-là, un peu phénoménales ou subjectives, peuvent servir à alimenter la formation. Alors, l'activité s'accompagne du compte de science pré-réflexive. Je vais aller assez vite. Je peux le résumer en deux mots, si on m'entendait dire ça. Vous enregistrez en plus, bon. C'est la conscience pré-réflexive, c'est en permanence dans la vie, nous agissons avec des éléments qui font signe pour nous, avec des éléments significatifs. Là, à l'instant, Si on faisait le tour de vos pensées privées, je m'interdirais de faire ça, bien évidemment, on pourrait voir que ce que je raconte, peut-être que d'ailleurs certaines personnes sont complètement en dehors de la communication, en train de penser à d'autres éléments significatifs pour eux. Je ne me permettrai pas de penser ça. Et que ce qui fait signe pour vous par rapport à ma prise de parole, par rapport à mes propos, par rapport à ce PowerPoint, ben ce sont des éléments qui mobilisent vos propres connaissances, vos préoccupations, avec des émotions, des agacements par rapport à ce que je peux raconter, des phases par moment. Donc ce flux de signification, il est complètement dépendant de vos attentes, de vos préoccupations, de votre histoire, et qu'à aucun moment on peut considérer qu'il y a un contenu d'enseignement identique pour tous, délivré à des stagiaires, mais que c'est chacun d'entre vous se réapproprie en fonction de vos propres référentiels, ce qui se joue là, tout de suite, entre nous. Donc cette conscience réflexive, c'est ce que vous mobilisez pour agir, pour penser. Ce sont donc vos connaissances, vos préoccupations, vos attentes, cet ensemble phénoménal qui est là, présent en permanence, mais qui est enchâssé dans l'activité, qui est pré-réflexif, ça veut dire qui n'est pas inconscient, mais qu'on mobilise sans forcément en avoir conscience. À un moment donné, lorsque je fais un geste quotidien, je vais le faire en sachant qu'une fois je me suis planté sur ce geste-là, que si je fais ça, je peux me faire mal, que si je fais ça ou ça, je vais être efficace ou pas efficace. Donc je mobilise des règles pratiques, pragmatiques. On est dans une perspective peurcéenne, hein, de connaissances en actes pragmatiques. Et ces connaissances-là, elles émergent de la situation et je peux a posteriori en rendre compte. C'est-à-dire que si vous m'interrogez sur ma façon de faire a posteriori, en essayant de comprendre mon organisation significative, je vais vous dire, ben, je fais ça parce qu'en général, si je suis pas un peu sévère au départ, je vais me faire déborder. J'ai déjà eu 3 expériences où je me suis fait chahuter. Si je fais ça, alors c'est quoi ? C'est comprendre l'ensemble des connaissances en acte qui sont mobilisées de façon intuitive, de façon à l'insu de la conscience pratiquement, par l'individu pour agir dans la situation. Alors ce ne sont pas des règles érigées de façon définitive, mais ce sont simplement des connaissances expérientielles qui organisent en partie l'activité du sujet. Ça va, je pourrais en dire beaucoup plus, mais le temps presse. Mais en tout cas, c'est bien ces éléments de signification qui organisent l'activité. Et comprendre des jeunes enseignants, c'est comprendre les règles, c'est comprendre leurs préoccupations, leurs émotions, qui organisent complètement, qui structurent leur activité. Pour faire simple, la peur du chahut, vous savez, cette boule au ventre là, eh ben, vous allez voir des comportements tout à l'heure qui sont... quelqu'un d'un peu posé dirait, mais attendez, ceux-là, il faut les enfermer. Et il ne faut pas que ces personnages soient profs. Malgré tout, c'est une adaptation, c'est une survie par rapport à des peurs récurrentes, des peurs viscérales qui organisent l'activité. Alors, je vais simplement dire un mot pour finir sur ce cadre théorique. Lors de l'autoconfrontation, on récupère des verbatims, donc des données, des verbalisations, et on fait un travail de déconstruction en repérant ce qui est de l'ordre des préoccupations, des anticipations, des représentamens, c'est ce qui fait signe, j'en dis pas plus, mais c'est un cadre de sémiologie. On s'intéresse à la sémiose, donc à la signification, et on essaye de repérer donc ces différentes composantes, les contenus de ces différentes composantes. Donc on fait une sorte de mise en ordre, de cette mise en mots de l'activité. Et on va pouvoir, comme cela, catégoriser et comprendre l'activité, modéliser l'activité et repérer des modalités d'organisation dont les acteurs eux-mêmes n'ont pas forcément conscience. Puisqu'ils agissent au quotidien, en urgence, puisqu'ils sont en permanence dans l'action, l'ensemble de ces phénomènes réorganisés nous permet de comprendre ce qui se joue en classe, pratiquement à l'insu des enseignants ou sans que les enseignants en aient une conscience claire. Et si je me permets d'aller jusque-là, c'est parce que tout à l'heure, vous allez voir des tableaux avec ces catégories-là. Et il me semble que l'intérêt ou la pertinence de ce travail-là, c'est d'analyser avec rigueur, en décomposant l'activité humaine et en repérant des modalités d'organisation dont les sujets eux-mêmes, dont les acteurs eux-mêmes n'ont pas forcément une conscience claire. Et on peut imaginer qu'après, en formation, on puisse travailler sur ces modalités-là. Cette déconstruction de l'activité humaine permet de dépasser les allants de soi, l'intelligibilité naturelle des acteurs pour essayer de mettre en ordre et d'aboutir à une intelligibilité pour mettre en évidence des organisations non conscientes. Alors je donne 2 exemples comme ça pour pas que ça soit trop ésotérique mon truc. L'activité du prof dans sa classe, je pense aux travaux de Philippe Vérune, qui est donc, c'est une professeure des écoles qui travaille sur des ateliers en mathématiques avec un certain nombre d'élèves. Il a essayé de montrer en synchronie les préoccupations, les attentes de plusieurs élèves et de l'enseignante dans sa classe. Et là, on voit une organisation signifiante globale articulant activité des élèves et des enseignants qui permet une nouvelle intelligibilité de la situation d'enseignement en voyant des phénomènes dont ni l'enseignant ni les élèves n'avaient conscience de son point de vue dans la situation. Donc c'est une perspective assez intéressante pour repérer d'autres grains d'analyse. Par ces grains d'analyse, on peut repérer d'autres modalités de l'organisation humaine qui peuvent échapper, en tout cas à l'acteur en situation. L'exemple que je vais développer dans quelques instants, ce début de cours, académiquement, on pourrait décrire ce que c'est qu'un début de cours. Si on s'intéresse aux enseignants débutants et qu'on repère un certain nombre d'éléments, on va voir d'autres formes, mais dont les enseignants débutants n'ont pas forcément conscience. Ils me disent « oui, je fais comme ça, mais j'en ai pas réellement conscience, ça se passe dans l'activité ». Et en plus, travaillant de façon cellulaire, encore quand même de façon cellulaire majoritairement, la porte fermée ou ouverte, mais en présentiel avec les élèves simplement, ils n'ont pas forcément conscience de ce que font les autres en classe. Et on s'aperçoit qu'on peut, comme cela, en faisant ce travail un peu rigoureux, on peut repérer des modalités d'activité non conscientes par la majorité de ce genre débutant professionnel. Et là aussi, je crois que ce travail-là peut avoir quelques pertinences. En tout cas, j'y crois un peu par rapport à la formation initiale. Bon. Des questions ? Une question par rapport à beaucoup trop d'infos et puis beaucoup trop vite, même si j'ai beaucoup de temps et que je vous garderai jusqu'à 17h30. Une question qui vous brûle les lèvres ? Bon, vous dormez, c'est parfait. Oui, mais je m'en rends pas compte. Ouais. D'accord. Mais c'est grave ou pas ? Non, ça va ? D'accord. Alors, rapidement, j'arrête d'utiliser ce mot, mais quand même. J'ai 25 000 heures de vidéo, donc. Pour vous dire concrètement sur quoi on travaille, on a eu. C'est les établissements dans lesquels on a travaillé, sur lesquels je bosse, donc pas chaque semaine, mais deux fois dans le mois, on est dans ces établissements-là. On a fait un long travail sur Vitry-sur-Seine, Jules Vallès, Cité Balzac. J'ai suivi cette professeure de mathématiques dans son nouvel établissement sur Sevran-Livry pendant une année. On travaille sur Garcia Lorca et Iqbal Massi, j'en ai parlé tout à l'heure. Marie-Estelle Rouve a fait son M2 sur Évreux. Bon, c'est pas l'Académie de Créteil. mais dans un établissement en zone violence également sur son master. On travaille également sur un longitudinal à Mantes-la-Jolie avec un autre étudiant qui est en M2 cette fois-ci sur le travail coopératif. Bon, donc à chaque fois qu'il y a un trait souligné, c'est donc un travail sur une année et à chaque fois qu'il y a une bulle, c'est une activité, c'est une recherche en cours, bon, tout simplement. Alors on a des dizaines et des dizaines de films, de vidéos, d'autoconfrontations, simplement par... Pour exemple, fin octobre, on est parti deux jours avec Marie sur des rendez-vous partout, etc. On revient avec 17 heures de film, quand même. Enregistrement en classe, avec des autoconfrontations, des remises en situation, donc des matériaux gigantesques à trier, à organiser, à modéliser. C'est très compliqué. Mais alors, bien sûr, avec l'autorisation, vous l'imaginez, des professeurs stagiaires ou des néo-titulaires. Et par exemple, pour cette intervention aujourd'hui, j'ai renvoyé un mail à des personnes que je vais montrer tout à l'heure. Dire voilà, je vais travailler sur tel type de vidéo, je vais présenter cela, je vais dire cela de toi, est-ce que tu acceptes ? Alors, je vais jusque-là des fois, c'est le minimum, et je suis même allé plus loin parce que j'ai montré finalement qu'un tout petit bout de vidéo, mais j'ai envisagé d'autres scénarios possibles et je lui ai proposé en disant voilà, et je suis prêt à te faire un compte-rendu précis de ce qui va se jouer dans la salle lorsque j'ai présenté tes vidéos. Et la personne m'a répondu non, aucun problème parce que je pense que je connais personne, ce qui est faux, hein, parce que régulièrement je m'aperçois en présentant des données à Clermont, de Paris, inversement, etc., que ah, c'est ma cousine. Donc je suis assez vigilant là-dessus. Et puis, elle dit, oui, mais j'accepte parce que moi, j'aurais voulu qu'on me montre ça. J'aurais voulu qu'on montre mon activité de débutantisme. Et je crois que c'est important, ça. Enfin, ces jeunes enseignants croient. Et quand on leur a demandé de travailler avec nous en début d'année, on pouvait travailler avec tout le monde. Il y a des gens qui ont dit, moi, je suis désolé, j'ai 3 ans d'ancienneté, j'aurais voulu travailler sur cette recherche, je peux pas. Il y a vraiment une envie d'être accompagné parce qu'ils se sentent vraiment seuls. Bref. Alors, ça donne... Je crois que je vais vous montrer quand même une toute petite vidéo, non, une toute petite qui dure 1h30. On est ici, alors, sur un début de cours, pour vous montrer un peu l'ambiance de Garcia Lorca, Séverine, professeur de lettres, cagne, hypocagne, travaille sur un, dans l'édition pendant un temps, elle a hésité, après elle est passée professeur stagiaire. Elle a loupé la grègue externe, mais elle veut la repasser. Donc, on est toujours avec des enseignants surdiplômés. Hein. M2, doctorat, ATER pour certains à un moment donné. Ça, c'est aussi une nouvelle tendance quand même de ces enseignants débutants, prêts à changer de métier plus facilement et qui sont surdiplômés. Donc, cette jeune enseignante qui a eu des débuts difficiles, parce que j'ai ici un entretien très intéressant, où elle a eu quand même un adulte relais dans sa classe lors de sa première année. Elle prend ça très bien. Elle a été... Elle a considéré que c'était un médiateur très important et si elle pouvait, elle recommencerait ou si elle a des problèmes, elle le refera. Ce qui pose des pour nous, a priori, par rapport à une vision un peu orthodoxe, on pourrait se dire, mais c'est quand même un aveu d'échec incroyable. Pas du tout. Il faudrait l'écouter. Peut-être qu'on le fera tout à l'heure. Et au contraire, elle voit plein de pistes. Elle voit un médiateur, mais qui est passif, hein, qui dit rien dans la classe, qui est venu, qui fait du lien social avec les élèves, qui va rencontrer les élèves sans jamais intervenir, mais la porte est ouverte. Il vient quand il veut. Et ça a créé un déblocage de la situation pour elle qui a été radicale. Alors que, l'ayant observé moi-même, elle n'arrivait pas à intervenir 2 minutes en français sur 1 heure au départ. Là, elle est donc dans sa 2e année d'expérience. Et une séquence un petit peu longue, mais qui montre l'ambiance. Et Marie, ici, pourrait vous témoigner de cette ambiance au quotidien. Alors, pour certains, vous la connaissez. Pour d'autres, c'est un peu choquant. Il y a des personnes qui, à Clermont, l'ont vu plusieurs fois, qui ont dit au départ, ça me choque un peu. Mais en fait, elle se débrouille pas mal quand même, cette jeune enseignante. Alors, vous allez voir une situation, mais totalement ordinaire. Comme ça, on a des dizaines d'heures qui sont peut-être proches de ce que vous connaissez ou peut-être éloignées. Alors, j'explique ça. La jeune enseignante a un micro... Oui, on va éteindre la lumière, oui. La jeune enseignante a un micro à chef. Je travaille beaucoup sur la qualité du son. L'image n'a pas beaucoup d'importance. C'est une... caméra posée à l'arrière sur un pied de table, hein, tout simple, c'est une toute petite caméra, j'ai vraiment du matériel d'amateur, et je me fiche de la qualité du film. C'est pour moi simplement un outil de travail pour repérer donc des traces d'activité et faire un travail d'autoconfrontation derrière. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on voit son activité hors classe, parce que là, elle est en train de remonter avec les élèves, il va y avoir une bagarre, etc. Ça va, c'est...
Rangez-vous correctement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Aurélie dans les escaliers là? Rangez-vous. Vous savez pas?
Non.
Rangez-vous. Rangez-vous s'il vous plaît. Vous verrez bien. Allez. Allez, rangez-vous. Range-toi. Ça fait des sols là.
Non, si elle a
un
point, faut me dire. Moi, j'allais voir la parce qu'il y a trop d'histoires pendant la récréation.
Mais qu'est-ce qui s'est passé justement?
Mais elle a quoi dit?
Tu veux bien ranger ton portable s'il te plaît?
Elle a quoi dit?
Elle s'est battue dans les escaliers. Non, reste ici. Bissola.
Non, madame.
On a cours, Bissola. Allez-y, rentrez. Non, non, vous venez. Vous mettez vos chewing-gums à la poubelle en Bissola. Oh, hé, venez ici. Allez, on y va. C'est pas la peine. Elle est... Il y a des gens avec elle.
Comment vous allez vous réussir là-dessus?
Parce qu'elle l'a fait juste devant moi, à ton avis. Et moi... Hé, oh, Mehmed. Lève-toi, Zoubeil, s'il te plaît. Bissola. Bissola, reste deux.
Bon, je vais couper un peu pour avancer plus vite. Bon, vous voyez un peu l'ambiance. Mais c'est pas spectaculaire, hein. C'est l'ambiance quotidienne, hein, qu'on soit clair. Je vais avancer un peu, donc, l'entrée des élèves.
Dis donc. À ça, à ta capuche, va t'asseoir à ta place, s'il te plaît. Non, tu n'es pas à ta place. Oui, si tu veux. Non, c'est Oumar qui est là, d'ailleurs.
Non.
Oumar, ton chewing-gum à la poubelle, s'il te plaît. Souleymane, tu te mets au premier rang. Lila, non, Sabrine, ton chewing-gum.
J'en ai pas.
Si.
Ramadan,
mercredi pourtant.
Madame,
Et vous avez vu le temps qu'on a mis à s'installer, maintenant on s'arrête, c'est pas grave, tu feras. Si, on en a besoin, mais c'est pas grave, je te dis pour une fois, tu feras sans. Bien. Omar, ton chewing-gum et va à ta place.
J'ai déjà arrêté.
Non, tu l'as dans la bouche, tu l'auras. Omar, j'ai vu ton chewing-gum dans ta bouche, tu le mets à la poubelle et tu vas à ta place. Dépêche-toi. Dépêche-toi, on va pas perdre 2 heures là. Tu l'as pas jeté. Va à ta place. Dépêche-toi. Omar, dépêche-toi. Non, 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 pas à côté de Souleymane. Dépêche-toi. À ta place habituelle. Allez, asseyez-vous. Bien. Isaga, ton chewing-gum à la poubelle, s'il te plaît. Tu as un chewing-gum dans la bouche.
Non, mais c'est vrai pour moi.
Oui, je t'ai vu mâcher. Va le jeter à la poubelle, s'il te plaît. Chut. Allez, vous sortez vos affaires. Est-ce que quelqu'un a l'autorisation de sortie pour mardi?
Alors, j'avance toujours. On est à 5 minutes. Je suis pas là pour faire le flic hein, et le chronomètre, mais bon, c'est déjà assez long. Là, ça va durer 2 ou 3 minutes encore de palabre par rapport à une sortie au cinéma. Donc, j'avance un tout petit peu. La difficulté, c'est d'organiser les autres activités. Et là, on n'attaque pas directement par la matière, mais je veux pas trop faire d'analyse tout de suite. Hein.
T'es dans votre cahier texte, ramenez l'argent pour le cinéma. Allez.
Mais est-ce qu'on peut le ramener?
Non, le mieux, c'est de le ramener lundi. Autre chose, s'il y en a qui souhaitent se rendre directement au cinéma, est-ce qu'il y en a ici dans cette classe qui souhaiterait y aller sans partir du collège?
Moi.
T'es externe? Alors les externes, si vous voulez aller au cinéma seul, vous me faites un mot signé par les parents dans le carnet de correspondance, sinon vous n'êtes pas autorisé à y aller seul.
Madame, c'est à quelle heure?
Il faut y être à 14h30
madame,
là-bas.
Madame, avec le collège, je vous jure pas que vous... Ah non, je...
Bissola! Bissola!
Non, madame, je fais comme je fais pas la madame, je suis externe.
Mais tu fais un mot par tes parents, tu pourras aller toute seule. Bon, taisez-vous là, Morgane! C'est fini?
Bon, ça l'a affiché, mais je suis
comme si Morgane travaille avec la
classe. Et madame, du cinéma, on peut rentrer seule aussi?
Non.
Bon, madame, je vais.
Quoi? Non.
Je veux rentrer chez moi pour repartir sur Sunny? J'habite au cinéma, à côté du cinéma, moi, madame.
Bissola.
Cinéma,
Bissola, est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit?
Là,
Omar, tu te tais?
S'il vous plaît.
Pardon? Excuse-moi, Omar?
C'est bon, madame.
Tu vas me donner des conseils?
Non, pas du tout.
Tu te tiens correctement maintenant et tu arrêtes ce genre de remarques?
Oui, madame. Elle était avec la CPE pour une histoire.
Oui, j'ai vu, j'étais dans l'escalier.
Celle qui s'est battue.
Bissola. Bien, alors on reprend le texte rapidement. On va finir. Est-ce que vous avez fini de lire le texte? Qui souhaite... Ah ça! Qui souhaite me présenter le texte que l'on avait déjà lu en classe? Arrête, installe-toi, installe-toi 2 minutes, tu te calmes et après on verra. D'accord? Non, s'il te plaît, installe-toi, respire bien et oui, je t'enverrai à l'infirmerie si tu es calme et que tu n'arrives pas à te calmer. D'accord? Tiens-toi correctement 2 minutes et après je t'enverrai peut-être à l'infirmerie. Alors, qui est-ce qui me présente le texte que l'on a commencé lundi, mardi? Yacine. Alors, on commence pas par présenter les personnages ni l'histoire. Quand on présente un texte, on commence par le titre et l'auteur.
Voilà, donc 10 premières minutes de cette entrée en classe. Vous imaginez que là on pourrait faire un long débat, mettre tout sur la table et en tout cas analyser, discuter, controverser par rapport à ça. On va pas le faire si vous acceptez. Je voudrais mettre ça en toile de fond. Hein. C'est l'activité ordinaire et je pense qu'on a. C'est pas du tout une donnée, des données vidéo impressionnantes pour moi ou pour Marie, parce qu'on aurait des moments beaucoup plus durs avec vraiment du chahut. Enfin, il n'y a pas de chahut là, c'est une activité contrôlée. Je sais pas comment vous le percevez, il faudrait qu'on. Elle s'en sort bien. Et ce qui est intéressant, quand je fais voir ça des PLC2 de l'IUFM d'Auvergne, qui pour la plupart, à 90%, notamment en lettres ou en langue, vont forcément dans l'académie parisienne pour au moins 5 ans. C'est étonnant de voir leur visage à ce moment-là. Ils sont décomposés, ils se rongent les ongles, ils sont pas bien par rapport à ça. Et après, quand on leur dit que la jeune enseignante est très confortable, qu'elle le vit très bien, on pourrait écouter, hein. C'est pas parce que je suis là et qu'elle survalorise ou en tout cas minimise les difficultés. Elle dit, là, c'est une activité ordinaire. On peut l'écouter un peu quand même.
Et donc, il y en a qui sont montés sans moi. Et le temps que je monte, il y a une des élèves de la classe qui s'est mise à se battre avec une élève dans l'escalier. Donc, il y a un surveillant qui l'a...
Toi, qui était à ce moment-là ?
Ben oui, j'étais juste derrière. Ouais. Je me demandais ce qui
s'est passé.
Il
s'est passé quoi ?
Ben, je sais pas, j'étais pas là. C'est pour ça qu'en arrivant devant la classe, comme il y a toutes ses copines, je lui demande qu'est-ce qui se passe avec Aurélie à ce moment-là.
Ouais. La fille qui s'est battue, c'est Aurélie, c'est ça ?
Ouais.
Et c'était une vraie bagarre ou simplement un accrochage ?
Ah oui, elle était. C'était une bagarre, quoi. Ouais. Et le surveillant la tenait fort, ouais, pour qu'elle arrête de taper l'autre.
Ouais. Donc elle ripostait, c'est ça, a priori ? C'est elle.
Alors,
qui a agressé ?
A priori, ce que j'ai entendu après, c'est que c'est une histoire de fille, de insulte, de je sais pas quoi, ouais, de tag sur l'une ou l'autre, et que bon, ça a fini, d'accord, par monter en. Et on a une qui a fini par taper sur l'autre.
Cette expérience-là d'une bagarre dans le couloir, c'est quelque chose d'assez ordinaire ou tu...
Oui, c'est assez ordinaire, oui, c'est terrible à dire, mais ouais, oui, quand même, ouais, c'est pas...
C'est quoi, c'est toutes les semaines, tous les mois que tu vois ça ou...
Bon, bah, c'est toutes les semaines, hein. Ouais. Il y en a toutes les semaines, bon, pas tous les jours, mais... Bon, parce qu'on n'est pas tout le temps exactement à l'endroit, ouais, où, ouais, il y a une bagarre. Ouais.
Et donc là...
Rangez-vous, s'il vous plaît.
C'est quoi ton... Sa façon d'être, sa façon d'être, juste en cours.
Qu'est-ce qui s'est passé justement ? Tu veux bien ranger ton portable, s'il te plaît ?
Donc là, tu poses des questions.
Je vais avancer un peu, hein. Excusez-moi, je n'aime pas interrompre comme ça, pour voir si on arrive à trouver le moment où elle arrive à dire oui, non, mais pour moi, c'est une activité bien, je suis en forme, ce matin, il n'y a pas de problème, quoi. C'est mon premier, ma première heure de cours.
Donc là, il y a des élèves qui veulent repartir.
Voilà, il y a des élèves qui veulent repartir pour aller voir Aurélie.
Allez-y, rentrez.
Bah, ils sont un peu... non, pas vraiment, en fait. Ils sont souvent comme ça quand ils arrivent en classe. En plus, là, ils sont pas encore tous arrivés. Et ils sont souvent assez bruyants, ils parlent fort, ils s'amusent. Là, il y a les petites... Il y a Bissola, ils s'agacent. Souvent, elles parlent très très fort en entrant en classe. Ça,
oui, elles sont expressives. Hein,
ah oui, elles sont... Et donc, c'est courant, mais... en fait, là, je pense que je suis assez tolérante parce que je sais qu'il va me falloir 2, 3, 4 minutes, mais qu'elles vont finir par se mettre très bien au travail. Et donc...
Ah oui,
quelque part, j'accepte, oui, j'accepte peut-être un peu plus, quitte à perdre 2-3 minutes en début de cours, parce que je sais que...
Tu auras du travail.
Ouais, elles vont se mettre au travail. Assa, qui refuse toujours de s'asseoir à sa place.
Qu'est-ce qu'il fait ? Il marchande ?
C'est elle.
Ah oui,
oui. Oui, elle veut absolument se mettre à côté de quelqu'un. Or, je sais, je l'avais l'année dernière en fait. Mmh. Je sais pertinemment qu'elle préfère être toute seule et qu'elle sait nettement
elle
mieux
teste,
quand elle est
là.
Toute seule. Oui, oui, elle teste. Mais elle sait que je vais pas céder, donc elle finira par se faire.
Là, t'es agacée ou...
Non, je suis pas agacée. C'est ma première heure de cours aussi, hein. Je suis encore relativement détendue. Je viens d'arriver au collège, ça va, je suis pas...
Là, c'est ordinaire, là.
Oui, ça va, c'est pas si catastrophique que ça comme entrée en classe. Hein. C'est bon, c'est un peu bruyant, mais c'est pas... ça reste encore... correct, surtout que les autres classes, là on n'entend pas ce qui se passe dans le couloir, mais ils sont pas non plus installés, on les entend encore circuler.
D'accord.
Dernier petit passage.
Tu sais que si je l'attrape pas à son entrée en classe en lui demandant de se mettre au premier rang, il va pas le faire. Donc,
ça, fin septembre, tu sais déjà tout ça sur les comportements.
Ah bah, j'ai pas attendu fin septembre, en fait, deux cours ça m'a suffi.
Deux cours, t'avais déjà
Ah oui, il y a des personnalités, on les remarque très rapidement. Donc Souleymane, c'est ça. Donc dernier rang, il va s'amuser. Au premier rang, il sera calme. Il boude un peu, en fait. Mais en fait, il travaille. Donc c'est aussi bien.
D'accord. Les mains sur les hanches.
Léa, j'attends. Ton chemin. Si.
les bras croisés.
J'attends encore, voilà.
Mercredi pourtant.
Bon, on en reste là. Simplement sur cet extrait, hein, vie ordinaire de ses enseignants. Alors, plein de choses à dire hein, sur ça, et j'imagine que vous aussi. Je vais essayer maintenant de le problématiser et d'essayer de montrer d'autres pistes par rapport à ce travail-là. On va garder cet exemple en toile de fond et on va le repenser, si vous voulez bien, à d'autres frais, en essayant d'avoir un autre regard sur cette activité débutante. Mon credo actuellement, c'est d'arriver... Enfin, repose sur la conviction qu'il est nécessaire de décrire et de comprendre l'organisation propre de ces enseignants débutants. On vient de voir ici une débutante hein, qui est enfin dans ses premières années. Hein, c'est pas péjoratif dans ma bouche de parler de débutant. Je pense que je serais exactement comme elle, dans la même situation, ou en tout cas pas meilleure. Et on voit beaucoup de jeunes enseignants comme ça, avec une attitude un peu flottante. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'elle est quand même très calme, elle est apaisée ou apaisante, elle va pas du tout... Elle n'est pas agressive, pardon ?
Elle est admirable.
Elle est, oui, tout à fait. Et ça, c'est une année déjà de construction. La première année, souvent, c'est du rentre-dedans, c'est aller au conflit directement, chercher à toiser ses élèves leaders. Là, elle a compris que ça ne marchait pas comme ça, qu'il y a une sorte de sas pendant une dizaine de minutes, un peu difficile, un peu douloureux, mais là, elle n'est pas fatiguée, et qu'ils vont se mettre au travail. Et ayant enregistré l'heure dans l'ensemble... J'ai pu remarquer des temps de travail avec des élèves très, très vifs qui disaient « Waouh, cette chute d'histoire, c'est incroyable !» à être surpris et engagé. Elle dit « Là, je vis des moments très agréables. » Il faut que je le précise hein, pour montrer que le travail ne se résume pas à ces 10 premières minutes. Là, j'aime quand j'arrive à emmener comme ça, à conduire une classe en français et à avoir des réactions comme ça. J'ai l'impression que je sers à quelque chose. Là, il y a une véritable légitimité. Malgré tout, je vais m'intéresser à ces 10 premières minutes. Et alors, je peux avoir une collection de novices débutants, je pourrais vous montrer des dizaines de vidéos comme ça, avec ces attitudes un peu flottantes, avec du temps à mettre les élèves au travail. Et souvent, on caractérise ces enseignants débutants un peu en creux par rapport à ce que seraient des bons professionnels plus chevronnés qui iraient plus vite et qui auraient des routines, des règles assez efficaces. Et là-dessus, moi, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, mais à l'UFM d'Auvergne, je crois que c'est quand même assez majoritaire et je retrouve pas mal d'approbation à droite et à gauche, on est tout le temps, à l'UFM, en train de définir, de décrire, de comprendre ce que sont les débutants à l'aune de l'activité experte. On est dans une sorte de focalisation excessive, à mes yeux, sur l'activité des chevronnés, qui ont des années d'expérience, qui ont rendu ce monde hostile, excusez-moi, familier, avec un certain nombre de régularités, ils savent comment faire. Et on a tendance certainement d'abord à idéaliser ce que sont les experts. Alors moi, j'aime pas cette notion d'expertise. Je suis en train de la réfuter de plus en plus. Pour moi, il y a de l'expertise locale, situationnelle, ponctuelle, relative. Ça dépend des contextes. Et peut-être de l'efficacité collective. En tout cas, cette notion-là, et je vois chez les débutants, de l'expertise novice. Donc là-dessus, je suis très prudent par rapport à ça. Mais malgré tout, dans nos instituts de formation, hein, école normale, on norme beaucoup les enseignants débutants par rapport à ce que sont ces enseignants experts. Donc c'est une description en creux, déficitaire, et on passe notre temps à décrire les lacunes des enseignants débutants. Alors c'est vrai, on peut soit repérer l'activité tout à l'heure de cette enseignante que l'on va appeler Séverine, en disant « Oui, mais c'est inimaginable de passer 10 minutes à attendre le silence pour pouvoir mettre les élèves au travail. » Soit au contraire, on considère que c'est déjà une belle réussite d'arriver à mettre les élèves au travail après cette bagarre quand même dans le couloir, après ce début de cours quand même qui est un peu hésitant. Bon, et après, il faut aller plus loin que ça. Il ne faut pas simplement faire analyser de façon relativiste ces situations-là et finalement... amender les situations relativement pas performantes, hein, c'est pas ça hein, mon but, mais c'est de prendre le temps de regarder ce qu'ils font et de repérer de nouvelles façons de faire. Alors, je vais simplement l'exemplariser en convoquant ici une petite séquence de néo-titulaires qui ont fait des débriefings post-observation dans l'établissement de Jules Vallès. Ils sont en co-observation. Alors, rapidement le dispositif, hein, parce que je vais pas m'étendre dessus. Ce sont des néo-titulaires, cette fois-ci, néo-titulaires qui sont dans les 4 premiers mois d'exercice et qui ont pris leur TGV dans la gueule, hein, expression d'Amandine, et qui ont eu l'occasion de faire de la co-observation en classe avec des collègues sur le volontariat. Donc ça fait partie du dispositif d'accompagnement d'aide dans l'entrée dans le métier à Créteil. C'est de la formation initiale différée avec un volume horaire alloué. Et plutôt que d'aller observer des experts, beaucoup d'entre eux voulaient voir des novices au travail, voir leurs collègues au travail, pour voir les effets que cela fait d'être en classe, de voir les mêmes élèves, ses propres élèves dans la classe d'un autre, dans une autre matière, avec beaucoup, en tout cas, l'intention d'aller voir les autres, avec de la curiosité, de l'envie de comprendre ce qui se joue dans les autres classes. Puisque beaucoup, à part là, cette expérience était au mois de janvier, disaient « Je vis avec ma classe un peu comme dans un huis clos et je ne sais pas beaucoup ce qu'il se passe et ce n'est pas dans la salle des profs qu'on a beaucoup le temps quand même d'échanger. » Parce que souvent, on parle d'autre chose aussi pour se changer un peu les idées. Et là, par contre, on est avec deux néo-titulaires d'anglais qui, à un moment donné, envisagent une nouvelle façon de faire la classe. Je suis obligé de vous dire également, pour comprendre, est-ce qu'il y a des spécialistes de langue vivante dans la salle ? En anglais, non ? Bon. Alors, je m'appuierai sur vous et sur vos compétences, alors. On est sur une prescription de l'Académie de Créteil et de la formation nationale sur l'anglais consistant à faire un travail de warming up, d'échauffement, en collectif, en début de cours, à tout pour démarrer à l'oral systématiquement avec ses élèves. Alors les élèves sont agacés, agités, ils arrivent et on leur demande de faire des vocalismes en anglais alors même que c'est déjà difficile à tenir. Ces deux enseignantes prennent conscience là, uniquement lors de ce débriefing où l'une et l'autre sont allées observer respectivement leurs collègues, on se retrouve dans cette prise de conscience par rapport aux normes professionnelles intenables. Et là, il va y avoir une sorte de mouvement en disant « Mais attendez, on est en fait un peu piégé par des prescriptions intenables. Travaillons autrement. »
Parce qu'on te dit des trucs, mais bref. C'est bête, c'est simple, mais parce qu'on est conditionné à faire cette espèce de connerie de warm-up, parce qu'on peut pas appeler ça autrement. Quand des gamins arrivent, qui sont surexcités, en plus c'était 14h30, c'est l'après-midi, c'est le jeudi,
c'est
l'avant-dernière heure, ils sont tout contents, machin, il y a un nouveau, l'Aïd c'est fini, il y a plein de trucs qui font glaçal, c'est dégueulasse, enfin, tout ça crée un climat d'excitation. J'aurais dû faire ce truc écrit en premier, en voyant. Maintenant, je le ferai plus jamais. Je sens que la prochaine fois, je les ai lundi, s'ils arrivent et qu'ils sont sûrs que c'était comme ça. Là, je me suis dit, hier, en rentrant chez moi, tu vois, ça m'a pris un truc, je me suis dit, je vais me préparer une batterie
d'activités pour
de petites activités écrites, tu sais, faites rapidement, en 5 minutes, que je sortirai en chaque début d'heure si jamais je sens que c'est le bordel, quoi. Et que je sens qu'ils sont pas prêts tout de suite, qu'il y a trop de choses qui vont sortir, qu'ils sont trop en ébullition, et que si jamais on fait de l'oral, ça va justement être tous les sens. Alors pour les canaliser un coup, je m'en fous de ce que disent les autres, ce que disent les formateurs et tout dans les stages et tout. Je ferai un truc à l'écrit en premier, et après, l'oral quoi. Un truc en rapport avec ce qu'on fait, tu vois, à l'oral. Mais je sens que maintenant, même si j'ai prévu à la base de faire un cours tout à l'oral, je préparais toujours une petite activité à l'écrit pour commencer si jamais je sens que ça part trop dans tous les sens quoi. Je pense que j'aurais franchement raison de faire ça.
Bon, alors là vous voyez la puissance de... alors il faut en discuter, hein. J'imagine que vous allez le faire tout à l'heure, oui mais c'est quoi cette façon de braconner le métier, d'envisager des d'autres façons de faire, s'affranchissant des règles. N'oublions pas que ce sont des règles de survie pour ces enseignantes. À un moment donné, quand pendant 4 mois, on galère à essayer de mettre les élèves au travail sur une forme intenable, eh bien, il a fallu quand même qu'elles soient toutes les deux devant un chercheur qui ne jouait pas du tout le rôle de formateur, qui ne faisait qu'enregistrer ici les données, pour changer radicalement leur façon de faire. Dès le dimanche soir, elles ont préparé ces exercices à l'écrit en phase d'un point de vue didactique avec ce qu'elles voulaient faire ensuite à l'oral. Et dès le lundi matin, et sur l'année, elles continuent de travailler comme ça, elles ont toujours une batterie de petits exercices à l'écrit lorsqu'elles ressentent que les élèves sont trop agités pour pouvoir faire ce travail d'ébullition majoré. Donc, on voit ici une activité qui est potentielle, puisque toutes les deux, elles essayent de construire des nouvelles règles pour agir en classe de façon... Et on voit bien qu'ici, c'est pas simplement de l'ordre didactique le problème, mais c'est bien presque d'un point de vue ergonomique pour pouvoir tenir la classe Et on voit bien cette double, et là, c'est là-dessus que moi je voudrais insister, que j'essaye d'appuyer un peu par rapport à la logique des IUFM qui sont quand même complètement inféodées par une norme didactique qui existe de façon tout complètement, je veux dire, très importante, en tout cas, avec une compartimentation des IUFM, avec des gens qui résistent par rapport à cette didactique des disciplines, mais qui prend pas suffisamment à mon compte, à mon avis. Je reste plus prudent, je regarde Jacques André.
Je pense simplement que c'est en train de changer aussi.
Ça change, mais doucement. Ça change, mais doucement. Je pense qu'ici, l'enjeu, c'est d'articuler à la fois des enjeux didactiques, mais aussi d'ergonomie, pour comprendre quelles sont les situations, les exercices qui vont pouvoir structurer l'activité des élèves et favoriser quand même, non pas des temps calmes, mais des moments de véritable mise au travail relativement facile. En fait, je vais prendre un exemple très trivial, mais si j'ai besoin de faire un effort de courte durée, est-ce que je vais assimiler du sucre rapide ou de la rillette avec plein de graisse ? A priori, je pense qu'il vaut mieux effectivement prendre ce type de substance sucrée pour pouvoir commencer un exercice. C'est en tout cas ce qui me paraît le plus en phase par rapport à ce que je veux faire. Mon exemple un peu décalé, mais on est bien. C'est peut-être simplement des réminiscences du repas d'hier soir. On est bien ici devant. Il faut réfléchir à des contenus d'enseignement assimilables directement, qui ne demandent pas des années et des années d'explications, des consignes et des consignes insupportables, pour pouvoir mettre les élèves au travail rapidement, adaptés à leur niveau, avec une capacité à varier les exercices, à enchaîner dans l'activité, pour éviter d'être chahuté. Et moi, là-dessus, c'est quelque chose qui me marque beaucoup, et je vais vous montrer des exemples de cette nouvelle activité de ces enseignants débutants. Alors, c'est à l'opposé de ce qu'on a vu avec Séverine tout à l'heure. Séverine, elle ne prend pas le temps de faire une entrée orthodoxe telle qu'on l'envisage dans un IUFM, où on attend, on accueille les élèves. Alors, elle le fait avec courtoisie et avec beaucoup de bonhomie, sauf qu'elle est en début de cours, en début d'année. Enfin, bon, vous voyez là ce que ça peut donner quand on est vraiment surfatigué. Alors que, donc, on attend, on fait l'appel, on attend le calme. Et quand seulement on a le calme, on donne les consignes, et après on met les élèves au travail. Mais ça peut durer, et j'ai 25 vidéos là-dessus, ça peut durer de 8 minutes comme aujourd'hui sur ce que je vous ai présenté, à 15 ou 20 minutes, ou parfois à aucun travail de l'heure, avec des chaises qui commencent à voler. Par rapport à ça, beaucoup d'enseignants qui ont été chahutés ont trouvé une nouvelle façon d'entrer en classe. C'est un travail immédiat dès l'entrée des élèves dans la classe. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'attente de l'ordre et du silence. Il y a une mise au travail, une invitation à travailler rapidement, à peine le cartable posé sur la table. Et on se retrouve avec des jeunes enseignants qui sont souriants, non agressifs, et qui mettent les élèves au travail avec la conviction que c'est le travail individuel sur un exercice assez simple qui va favoriser... qui va favoriser et atténuer cette dégradation potentielle lorsque les élèves arrivent après un passage dans un couloir suragité. Alors, ça va donner ça. Donc, le passage à l'écrit. Alors, il peut y avoir différentes formes. Et je vais vous en montrer une qui est un peu radicale, où une jeune enseignante, en tout cas, Frédéric tenait beaucoup à ce que je montre ces vidéos-là, qui sont des vidéos un peu dures, où une jeune enseignante de maths, pareil avec un doctorat, une fille qui a fait un parcours universitaire très long, est détestable en classe. Enfin, détestable, j'exagère, je ne devrais pas dire ça. Bon, je retire ce mot. Et est assez intolérante, avec une forme très, très rigide dans sa façon d'intervenir. On va écouter son verbatim après. Pourquoi elle s'est organisée comme ça ? En début d'année, cette jeune enseignante était chahutée. Elle a été chahutée pendant 3 ou 4 mois. Et elle s'est construite une façon d'entrer en classe avec des classes à Jules Vallès qui sont les plus durs d'établissement. Et pour avoir suivi les élèves dans d'autres cours, je peux vous assurer qu'effectivement, ils sont capables de comprendre les règles d'un enseignant et de se transformer, les élèves, tout de suite dans le cours suivant avec une personne qui travaille autrement. Ça crée en plus des problèmes de surcompensation. C'est-à-dire que quand ils sont hyper tenus par un enseignant, vous imaginez les débordements dans le cours d'art plastique qui suit. Alors là, ça peut être un peu fort. Alors, je dis pas plus. Vous
sortez votre cahier de travaux numériques. Je vous ai donné des exercices. Je vais vous demander d'écrire ce que je vais vous donner à écrire. Donc vous m'écrivez ça pendant ce temps. Pendant ce temps, je vais passer dans les rangs pour vérifier que vous avez fait votre travail. D'accord ? Hakim, tu t'absentes, toi. Dans un silence complet.
Les élèves sont en cours depuis une minute. Hein. Ils viennent de s'asseoir et on est là déjà. Hein.
Damien, il me semble que je t'avais déplacé. Maëva, tu te mets à côté d'Elodie. Qu'est-ce que t'attends, toi ?
Rien.
Rien ?
Non.
T'as pas l'intention de travailler, donc ?
Oui, mais c'est... Lundi, vous allez passer derrière.
Et qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, pendant ce temps, vous écrivez ce qu'il y a au tableau. Oh. Très bien.
Madame, c'est ma place de conduite.
On verra. Hakim, il faudra que tu rattrapes ce qu'on a fait. Hein ? Oui.
Ici dans un système très structuré avec des déplacements millimétrés, avec des diagonales, avec des positions toujours les mêmes pour elle dans la classe, avec cette entrée systématiquement à l'écrit. On va voir un verbatim par rapport à ça. Elle commence simplement à avoir cette activité individuelle ou de contrôle du travail lorsque la classe a un travail. Alors c'est pas ici. Les contenus didactiques ne sont pas l'otage ou en tout cas le parent pauvre, mais en tout cas elle organise son activité de façon plus globale. Les contenus d'enseignement sont compris dans une organisation plus globale et elle peut comme ça, lorsque les élèves sont enfin calmes, assis et au travail, et les élèves ont pris l'habitude de travailler comme ça, elle va passer dans les rangs et elle va avoir des moments d'écoute, de relations, de communication avec les élèves qui sont quand même très, très positifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle alterne sévérité, mais aussi parfois... presque confidentialité avec les élèves. Elle peut comme ça contrôler l'activité collective et avoir enfin une activité individuelle avec ces élèves qui sont non pas cloués sur place mais qui sont sur une activité d'écriture. Alors elle dit cela au début de l'année, l'année scolaire. Les élèves m'interrompaient en permanence. Au bout de 2 mois de galère, après avoir essayé plein de trucs, j'ai réussi à reprendre la main en les faisant écrire systématiquement en début de cours. Je me débrouille toujours pour écrire avant le début sur les deux volets du tableau. Ils arrivent, ils s'assoient et se mettent à écrire. Ça les calme. Je passe dans les rangs, contrôle le travail et j'explique ce qu'ils viennent de noter seulement s'ils sont prêts à m'écouter. Alors ça peut tenir si les élèves jouent le jeu. Parce qu'on peut imaginer une classe encore plus débordante, mais elle tient sa classe, et en tout cas, elle arrive à tenir cela depuis quelques mois maintenant. Parce que le problème, c'est que j'ai toujours peur que ça parte en vrille, toujours, toujours, toujours. Elle a été chahutée. Alors, c'est la vidéo que voulait Frédéric Soja, cette peur du chahut qui organise l'activité, et cette séquence vidéo de 30 secondes...
Première situation...
Avec une autre classe... montre bien son engagement.
Les angles formés par deux droites sécantes. C'est quoi deux droites sécantes ? Mohamed ?
C'est deux droites qui font un point d'intersection, qui se coupent
en un point. Très bien.
Alors, toujours pareil, reprise d'une position arrière de la classe pour contrôler, réduction des espaces de privacité ou des espaces privés hein, des élèves. Elle est dans ce registre d'activité, comme dans un panoptique, hein, une prison, où on peut par... voir les silhouettes de l'ensemble des prisonniers et en permanence surveiller les élèves ou les prisonniers ou en tout cas en donnant l'impression de les surveiller en permanence même si elle ne les surveille pas. Alors ça donne également. Alors, ce que je voudrais montrer là, et je vais essayer d'être plus vite et bientôt terminer pour qu'il y ait quand même une discussion, je vais reprendre l'articulation recherche-formation, mais je vais vous laisser du temps pour débattre et discuter de tout ça. C'est pour vous montrer que je repère ici une activité typique ou type de ces néo-titulaires dans la façon d'entrer en classe. Alors, ce que vous ne voyez pas bien, mais que je vais vous lire un tout petit peu, c'est que j'ai pu reconstruire comme cela leur activité avec ses catégories et ses composantes de l'activité. Et si je l'ai fait, je ne l'ai pas fait simplement sur cette enseignante de maths, mais sur un certain nombre d'enseignants qui développent cette même façon de faire. Alors, ça donne cela. Ce qui fait signe, c'est-à-dire ce qui est significatif pour eux lors de ce début de cours, c'est l'agitation des élèves lors de leur entrée en classe, le bruit dans le couloir, les déplacements, les altercations, les bousculades, les railleries, les regards. Donc là, ils ressentent cette ambiance de classe. Il y a des chercheurs, je pense notamment à Dominique Bucheton, qui travaille beaucoup sur les ambiances de classe, sur sur des gestes d'atmosphère permettant de réguler peut-être ou d'apaiser ces situations-là ou ces ambiances de classe. Après, ce qui fait signe également, c'est la position de l'heure dans le cours, dans l'emploi du temps de la journée, de la semaine, de l'année. Alors, ils n'ont pas une vision complètement claire de cela. On n'est pas ici sur des personnes complètement lucides là-dessus. Mais ils connaissent très bien et de façon très pertinente que le vendredi après-midi à 15h, ce n'est pas exactement la même heure que le lundi matin à 8h, qu'on est en début d'année, en fin d'année, qu'il y a eu déjà des vacances. Enfin bon, ça, on le vit au quotidien. Ce sont des repères assez importants par rapport aux décisions qu'ils vont prendre. Ensuite, les expériences précédentes de début de cours difficiles, difficilement contrôlables avec la classe depuis le début de l'année, depuis le trimestre, etc. Donc ils ont également une impression ou un jugement par rapport aux dernières expériences et par rapport à la difficulté ou non à ce moment-là de tenir la classe. Alors ce ne sont pas des éléments qui vont complètement leur garantir et rendre prévisible ce qui va se passer avec ces élèves, puisque la seule prévisibilité, c'est l'imprévisibilité. Mais malgré tout, ça leur donne quand même des indices et des repères. Alors, leur préoccupation, conserver une attitude conviviale malgré l'entrée bruyante des élèves, éviter d'entrer en conflit avec les élèves leaders de la classe, estimer le caractère récupérable ou non de l'agitation en classe, c'est-à-dire que là, je sens que bon, je peux passer à l'oral directement, autrement, je vais faire l'écrit tout de suite, mettre les élèves au travail le plus tôt possible, accepter de donner des consignes minimales dans le bruit, sans attendre ce silence, pour que ça soit le travail individuel qui finalement favorise le silence et non pas le silence qui soit en amont la garantie du travail individuel. Leurs attentes par rapport à ça, ou anticipation, attentes liées à une diminution progressive du bruit dans la classe à mesure de la mise au travail individuel des élèves et ainsi à une prise en main progressive de la classe. N'ayant plus les moyens, et on l'a vu avec Séverine tout à l'heure, de pouvoir de façon frontale obtenir le calme et le silence pour mettre les élèves au travail, ils adoptent comme cela, de façon non pas démagogique, mais de façon assez fine et intelligente, d'autres procédés pour pouvoir accueillir et mettre les élèves au travail. Alors, les attentes, c'est aussi lié à la conservation du calme des élèves en changeant souvent d'exercice et en essayant de façon très fine de passer d'un exercice à l'autre. Alors, ça demande un travail considérable. J'ai vu des jeunes enseignants qui passaient directement à un texte à trous. Alors, les IAIPR réagissent en disant « Mais c'est quoi ce travail sous-élémentaire ou infra-élémentaire ?» Après, il faut peut-être que cette chose-là soit reprise par les formateurs pour essayer d'avoir des textes à trous pertinents, légitimes, avec des choses intéressantes par rapport au programme en cours. Donc là, il faut peut-être que les formateurs se ressaisissent de ces formes de travail qui sont des formes adaptatives par rapport à une urgence. Ensuite, ces enseignants vont, par exemple, proposer une correction, passer au niveau d'un transparent, relancer sur notre activité. Et j'ai vu comme ça des jeunes élèves ou des plus grands qui arrivent comme cela à être tenus pendant une heure et qui travaillent vraiment. En maths, on travaille en mathématiques. Et ça aussi, c'est une exigence qui est essentielle. Un jeune enseignant qui n'arrive pas à mettre ce niveau-là en termes d'exigence, il passe à côté, il se fait chahuter et les élèves ne sont pas dupes par rapport à ça. Et c'est assez impressionnant de voir que je suis une classe qui vont chahuter de façon incroyable un prof et qui ensuite vont être complètement cloués sur place par un accueil pédagogique et didactique et vraiment un travail sur la matière avec un prof qui est agréable, qui n'est pas là pour crier et qui ne va pas crier de surcroît. Alors, les savoirs, c'est les interventions très autoritaires en début de cours ont tendance à dégrader la relation pédagogique. Il est essentiel en début de cours d'établir une relation de confiance à l'égard des élèves tout en restant exigeant. L'attente en début d'heure du silence des élèves pour commencer le cours peut s'éterniser sans effet. Le travail écrit individuel a tendance à minimiser l'agitation collective. Les élèves acceptent volontiers de commencer par un travail écrit si celui-ci est suffisamment gradué et accessible. Bon, voilà à peu près ce que pensent ces enseignants et ce qui les organise pour agir de la façon suivante. Un autre témoignage, une enseignante dit, pour vous montrer que c'est pas simplement une personne, mais que c'est quelque chose que je repère, que vous avez peut-être repéré aussi hein, dans vos passages en classe. Là, je sens les élèves très excités. Je ressens nettement l'ambiance électrique des mauvais jours. Comme si à un moment donné, on pouvait palper cette ambiance-là qui m'oblige à faire autrement. Quand ça va déraper, alors tout de suite, je distribue le matériel pour mettre les élèves au travail. Inutile ici de leur rentrer dedans, d'attendre le silence. Je l'ai testé souvent, mais je me suis épuisé pour rien. Les mettre au travail tout de suite sans m'énerver. Alors, c'est vrai que Séverine, qu'on a vu tout à l'heure, passe peut-être beaucoup trop de temps à donner des informations générales et attendre calmement la mise au travail, enfin l'accueil des élèves, et en tout cas des élèves qui mettent du temps et qui jouent sur le temps en plus. Hein. Et elle prend conscience progressivement qu'il va falloir qu'elle amorce beaucoup plus vite et qu'elle trouve des façons d'amorcer le travail individuel, alors que pour l'instant elle tient sa classe, mais elle tient sa classe sans contenu, sans les mettre au travail. Et c'est pour ça que pour moi ce sas de 10 minutes est quand même long à vivre, parce qu'effectivement, il n'y a pas une amorce par le travail et la discipline scolaire. Alors, pour finir sur cet exemple qui était un peu long, je crois que ce travail-là, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, non pas sur un longitudinal, mais vraiment sur l'activité in situ et par rapport à ces publics difficiles, on voit une rupture, parce que j'ai insisté tout à l'heure sur la façon dont on se représente tous d'un point de vue académique, l'entrée en cours et ses rituels d'entrée. Je pourrais vous faire voir une très belle séquence de 2 minutes d'une professeure chevronnée qui fait les choses très bien, qui a une bonhomie, une autorité bienveillante et qui met les élèves au travail en 2 minutes. C'est remarquable. Mais les enseignants débutants ne sont pas capables de faire ça. Pour eux, cette activité experte est à 10 000 lieues de leur propre façon d'agir. Et il faut trouver des façons intermédiaires différentes. Et pour cela, alors que le début de cours, vous voyez, serait entre crochets là, hein, c'est-à-dire le début de cours ici à 8 heures du matin... Eh bien, il y a toute une activité préalable. Donc, il y a des activités qui ne sont pas celles de la classe, mais qui vont préparer à l'activité même de cours. Prendre les élèves dans la cour, diminuer les espaces privés, écrire le cours au tableau, préparer des travaux aux écrits, évaluer l'ambiance de classe. On voit donc que cette activité qui semble être académiquement débutante à 8 heures du matin ou à 10 heures après la récré, c'est une activité complexe avec des passages à risque, des situations vécues de façon des fois un peu traumatisante, des temporalités qui ne sont pas celles du découpage académique, des territoires qui ne sont pas forcément seulement ceux de la classe. Les élèves n'arrivent pas sans préoccupation, sans tout l'engagement et toutes les histoires qui ont pu se construire ailleurs. Donc il y a tout un travail et un jeu entre espace public et espace privé. Des atmosphères particulières, l'atmosphère du couloir, l'atmosphère de la classe, l'atmosphère de ses premiers pas, et des savoirs disciplinaires qui sont pour moi structurants, c'est-à-dire qui doivent être là, puisque nos enseignants débutants dans le second degré ne sont pas formés pour être flics. Malheureusement, ils ont été formés sur une discipline pendant très longtemps, ils sont amoureux de leur discipline, et ils ne sont pas suffisamment formés, en tout cas je parle pour Clermont et Créteil, sur des éléments même de gestion de classe, mais pas à vide, mais pas sans la discipline. Il faut arriver à réarticuler à de nouveaux frais les enjeux disciplinaires et disciplinaires, c'est-à-dire curriculaires, mais aussi par rapport à la gestion de l'activité. Alors, une série de questions, et puis je vais être court pour finir, hein, je suis très bavard. Quel intérêt de ces recherches, hein? Je suis à la fois, j'essaie d'être à la fois convaincant, mais je suis très prudent par rapport à ça. C'est d'abord de penser qu'on peut objectiver par le travail de recherche ce potentiel de création, souvent exacerbé en début de carrière, mais trop souvent écrasé en même temps par l'intelligibilité de sens commun ou la référence unique à l'enseignant expert. Prenons le temps de dire ce que sont les enseignants débutants et leur façon de vivre le métier, et notamment en classe, sans systématiquement dire ce qu'ils sont à la lumière des enseignants experts. Arrêtons, cassons un peu ce continuum débutant-expert et repérons ces changements de professionnalité, ces transformations professionnelles, sans forcément avoir systématiquement en ligne de mire les experts et sans forcément caractériser en creux ce qu'ils sont par rapport à ce qu'ils devraient être. Et puis en plus, si je fais travailler ma propre référence, comme le font beaucoup de conseillers pédagogiques, une sorte d'idéalité par rapport au métier, ou si je m'auto-réfère en permanence à mes propres expériences, je suis totalement en dehors des clous, de par l'évolution du travail et des difficultés quand même accrues par rapport à ce travail-là. Alors, l'activité novice possède une organisation et une signification propre. Inutile d'aller plus loin. Mise à jour, pour moi, d'une activité typique non partagée, compte tenu du travail majoritairement cellulaire des enseignants dans leur classe, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une sorte de double prise de conscience, parce que ces enseignants qui braconnent, bricolent, s'organisent en urgence, n'ont pas une vision très claire quand même des modalités qui favorisent la structuration des classes. Séverine, au bout d'une année, elle n'a pas du tout perçu cette possibilité d'entrer plus vite dans le travail en changeant sa façon de faire. Je lui en ai parlé un peu. Elle m'a dit « Ah oui, ça serait intéressant, il faudrait que j'essaye. » Mais elle n'est pas convaincue. Alors là, ça pose des questions aussi de chercheurs et de formateurs. Je suis chercheur. Je prends le temps de faire des autoconfrontations avec une certaine neutralité, une distance par rapport aux personnes. Mais après, si ces personnes-là, dans l'année, nous demandent des conseils, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, tu ferais comment à ma place? Régulièrement, je donne des conseils. Régulièrement, je réfléchis avec eux. On est dans une perspective ici où la recherche est embarquée dans un travail, modifie le travail. Et si la recherche marche et si nous avons cet engouement ou en tout cas cette volonté de ces jeunes enseignants d'être avec nous, c'est aussi parce qu'ils voient des pistes possibles pour pouvoir les aider dans leur travail au quotidien. Donc il y a une prise de conscience individuelle à opérer, pour moi, mais aussi collective, puisque ces enseignants travaillant dans leur classe n'ont pas forcément pris conscience de ce genre débutant qui retravaille en partie la norme prescrite. Alors, des questions, hein, je suis non pas sans réponse, mais je suis très prudent aussi, une fois de plus. L'activité réelle est quand même différente de l'activité prescrite en formation. De plus, l'activité dans les stages professionnels, dans les académies de province, je parle pas des... Il y a des exceptions, et dans chaque académie de province, il y a des établissements difficiles, hein, j'en ai bien conscience. Mais c'est une activité quand même qui les prépare pas forcément ou difficilement à un métier beaucoup plus dur sur une académie, dans une académie d'accueil. Comment peut-on faire pour pouvoir préparer au métier sur des supports ou des stages qui sont quand même très décalés par rapport à la réalité d'un métier qu'ils vont découvrir? Peut-on simuler, anticiper? Je vous donnerai des réponses. On travaille par exemple à Clermont sur des stages de co-observation dans l'académie de Créteil. Pour les professeurs stagiaires volontaires, on part avec eux 3 ou 4 jours, non pas pour observer avec des yeux incroyablement élargis un zoo, pas du tout. On fait un travail d'immersion dans l'établissement. On rencontre chaque partenaire dans l'établissement. On fait tout un travail tel que le travail de co-observation, de débriefing. On fait de l'analyse de pratique en situation d'établissement. Et on essaye de comprendre les logiques. Et c'est assez étonnant qu'au mois de janvier, des professeurs stagiaires de Clermont se disent « Ah, en fait, je m'aperçois que j'arrête pas de gueuler contre mes élèves de Clermont qui sont beaucoup plus faciles. Et qu'il faudrait peut-être que je révise ma façon d'être avec les élèves, que je révise ma relation humaine avec ces élèves-là. » Et c'est assez étonnant de voir que d'un côté, ça dédramatise complètement la situation du mois de septembre prochain, l'horizon anxiogène, mais que ça leur donne également d'autres clés, d'autres pistes par rapport à ce qu'ils vivent dans leur situation présente. Alors, moi j'ai quand même tendance, et je suis je défends en tout cas la position d'une modélisation de l'activité réelle pour préparer, simuler, anticiper. Et souvent, à l'issue de ces travaux-là, les stagiaires disent « Ah oui, mais ça finalement, je ne l'avais jamais vécu avant que tu nous le dises. » Mais finalement, je viens de le vivre quelques instants après. Je me suis vraiment servi de la formation qui a été faite, qui était une formation concrète pour pouvoir agir de façon efficace. En fait, je crois que et les formateurs et les chercheurs, nous devons unir nos efforts pour pouvoir prévenir les enseignants débutants, pointer les situations qu'ils risquent de rencontrer, même s'ils ne les ont pas rencontrées jusque-là. Alors, c'est pas simplement de la prévention, mais pour qu'ils commencent à construire, en termes d'horizon de signification, d'autres champs, d'autres pistes, d'autres repères pour pouvoir être un peu plus efficace. En tout cas, je trouve, enfin en tout cas, il faudrait qu'on en discute ensemble, mais que la recherche et la formation connaissent l'activité typique, connaissent des situations de crise, des problèmes particuliers. Et on n'a pas laissé les jeunes enseignants tout seuls redécouvrir tout seuls la sphère professionnelle alors même qu'on a des connaissances de ces points-là. Voilà, donc le troisième point, reprise par les formateurs des situations professionnelles réelles. Et je crois que là, Après la recherche, il y a un travail à faire avec les formateurs pour repenser à nouveau frais d'articulation des dimensions didactiques et ergonomiques des contenus d'enseignement. J'en ai parlé plusieurs fois ce matin. Alors, simplement, deux posters et j'ai fini sur la façon dont je travaille, deux ou trois, sur les dispositifs de formation sur Clermont, en mettant en place, entre cette année et l'année précédente, cinq dispositifs tout à fait novateurs dans l'établissement, où je forme, par exemple, des professeurs chevronnés à l'activité novice. Je me sers des recueils de l'activité novice pour former des professeurs chevronnés. Et ils trouvent... Il y a une véritable demande et un régal, déjà de dire, finalement, c'est moins dur chez nous, et ça me fait vraiment du bien de voir ça. Enfin, j'exagère un peu, je plaisante, là. Et après, on déconstruit l'activité novice, on comprend leurs difficultés, et on voit exacerber ce que ces enseignants chevronnés depuis 20, 30, 35 ans perçoivent tous les jours, mais sans oser remettre en cause ces routines professionnelles. Et là, c'est pour moi assez spectaculaire de voir les bouger sur ce type de formation contre-intuitive. Également... formation continue, excuse-moi, ouais, je suis... Mais à partir de l'activité novice. Former également les formateurs à l'activité novice. C'est-à-dire qu'un formateur ou un conseiller pédagogique, si on ne prend pas le temps avec lui... De décrire ce qu'est cet enseignant débutant. Moi, je ne suis pas évaluateur. Je n'ai jamais eu de situation d'évaluation en même temps qu'une situation de chercheur. Donc, les jeunes se confient assez facilement, expliquent leurs difficultés. Et si on ne part pas de ces matériaux-là pour concevoir un dispositif de formation, on ne peut pas faire converger les attentes des stagiaires et les objectifs de la formation. Mais ça, c'est à la fois une banalité, mais un enjeu assez essentiel pour arriver à synchroniser plus clairement les étapes de développement ou le processus de professionnalisation des stagiaires ou des enseignants débutants avec des offres de formation qui partent d'eux et qui ne se satisfassent pas simplement de cette base de départ, mais les fassent progresser. On est bien dans une perspective où on va tirer vers le haut les stagiaires, mais en partant d'eux. Alors, on peut, au niveau de la recherche, décrire l'activité typique. Je vous ai montré un exemple ce matin d'activité typique de début de cours, transdisciplinaire, mais sans oublier les disciplines. Hein. Et moi, je travaille avec des spécialistes et des disciplines. Quand je travaille avec du français, je travaille avec Roland Guagou, qui, si je ne comprends pas quelque chose, enfin, je passe des semaines et des mois en classe. J'ai passé des semaines en histoire géo, des semaines en maths, donc je commence un peu à comprendre le programme de 6e en mathématiques et en histoire géo. Mais si j'ai des problèmes en mathématiques, je vais voir par exemple Claire Margolinas, qui est dans notre établissement, qui va me dire, bah oui, c'est comme ça qu'il faut faire, ça veut dire ça, etc. Ou exactement pareil avec des spécialistes d'histoire géo, de langue, et j'adore cette collaboration-là. Après, je pense qu'il faut arriver à croiser l'activité typique, mais également l'activité critique. Celle qui fait problème, ou qui pose problème pour les enseignants débutants. Parce que si on décrit de l'activité typique des enseignants débutants devant la machine à café, je suis pas certain que ça soit les meilleurs contenus de formation, par rapport à l'activité critique avec des points saillants, des faits marquants tous les jours. Donc là, je crois qu'il faut faire ce travail-là de synchronisation et de mise en convergence de ces deux pour réduire et pour qu'il y ait un espace d'entendement ou d'accord. Et ensuite, il me semble qu'il peut y avoir un autre croisement, une autre intersection, donc à l'articulation des trois. C'est l'activité féconde, celle qui sera féconde en formation, donc initié par les formateurs à partir de connaissances de travaux de recherche. Je ne veux pas qu'il y ait d'orthodoxie hein, par rapport aux travaux de recherche du tout, mais qu'on puisse, de façon articulée, comprendre comment la recherche peut alimenter la formation et que la formation, en même temps, alimente les travaux de recherche, mais sans mettre de côté les stagiaires ou les professeurs stagiaires. Et à partir de là, donc, l'activité féconde va tenir à la fois des connaissances sur l'activité typique. On a des éléments de connaissance avec les chercheurs qui sont là sur ce que c'est qu'être débutant, sur les conflits réglés par des jeunes enseignants, etc. Mais aussi par rapport à des éléments même essentiels à envisager en formation. Et du début à la fin de l'année, là évidemment je parle de la formation initiale de PLC2, hein, donc des professeurs stagiaires, les préoccupations des enseignants stagiaires en début d'année, au milieu d'année et en fin d'année ne sont pas les mêmes. Donc il faut ici... faire ce travail en permanence pour synchroniser les dispositifs de formation par rapport à ces développements professionnels.